Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les échos de l'innovation pour parler futur et nourriture dans le cadre du cours de sciences et débat public donc à l'Université technologique de Compiègne. Donc on parlera de ce sujet avec Juliette, Garance et Louise.
Bonjour.
Bonjour à toutes.
Bonjour.
Donc on est toutes les quatre étudiantes à l'UTC et aujourd'hui on va s'intéresser au développement de notre manière de cuisiner et de manger dans les années futures et comment l'innovation peut-elle transformer nos habitudes culinaires. On va aborder plusieurs sujets, plusieurs aspects technologiques et gustatifs afin de dresser une première image de ce à quoi pourrait ressembler notre cuisine dite du futur.
En effet Luna, on peut directement commencer par une citation du chef étoilé Thierry Marx, spécialiste en cuisine moléculaire et chef de plusieurs restaurants parisiens, dont un sur la Tour Eiffel. Lors d'une interview accordée à Science et Avenir, le chef répond à la question « À quoi ressemblera la gastronomie du futur ?» en disant « Elle sera respectueuse de son impact environnemental et social, ou elle n'aura pas d'avenir. Le choix des produits, les approches, peu importe qu'il s'agisse de haute gastronomie ou de street food, doivent prendre en compte l'état de la planète. L'impératif absolu est de définir ce qu'est un aliment de qualité, d'en identifier la provenance et le mode de production. »
Ici, nous avons donc un premier aspect de la dite cuisine du futur avec l'écologie, l'environnement et la provenance. On sait tous aujourd'hui qu'énormément de produits alimentaires sont importés, ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans nos assiettes et cela a des conséquences dramatiques sur l'environnement. Un des aspects pour la cuisine du futur sera donc la provenance des aliments, que celle-ci soit contrôlée et locale afin de minimiser l'impact environnemental du trajet production-assiette.
Exactement, et nous savons également que la production de viande, de façon industrielle particulièrement, est plus que néfaste pour l'environnement. Une cuisine du futur viserait donc à réduire cette consommation. L'agroalimentaire et l'élevage sont des industries qui causent de nombreux problèmes, tels que la déforestation, la pollution des sols et la production massive de déchets. On voit que les méthodes de production employées pour subvenir aux besoins d'une population croissante ne sont ni viables ni durables. Il faut trouver des alternatives. En revanche, on remarque également d'autres évolutions concernant la cuisine, qui se soucient moins de l'environnement et plus de l'expérience qui peut être associée à la consommation d'un repas, qui peut se révéler être une expérience artistique. On va donc, pendant cette émission, répondre à la problématique « Comment la cuisine est-elle en train d'évoluer ?» afin de répondre aux problématiques écologiques et aux envies d'une société qui change.
On va donc parler de solutions high-tech et low-tech qui peuvent résoudre les exigences grandissantes en termes de respect de l'environnement et de nouvelles expériences interactives culinaires. On va s'intéresser premièrement à l'aspect technologique de la cuisine du futur. Beaucoup d'innovations ont déjà vu le jour dans le domaine de la restauration. Même sans parler de la cuisine et des aliments, de nombreux restaurants se sont réinventés en ajoutant une dimension interactive au repas des clients. Certains restaurants high-tech ont décidé d'investir dans des tables tactiles et des jeux de lumière projetant des animations et des décors plus incroyables les uns que les autres sur la table des clients afin de mettre en avant les plats et d'émerveiller les spectateurs.
Et oui, Garance, c'est le cas d'un restaurant à Shanghai. Au menu, 22 plats à déguster, immergés dans autant d'ambiances olfactives, visuelles et musicales, des Beatles aux arômes de truffes. C'est une expérience culinaire à 360 degrés que propose Paul Perret, le chef français de 53 ans, qui gère l'Ultraviolet, l'un des établissements les plus singuliers et onéreux du monde. Des animations sont projetées sur les murs et sur les tables en rapport avec le plat servi. Le homard vient d'être servi ? Un système pulvérise aussitôt un air iodé dans la pièce, dont les murs se tapissent d'images de vagues s'écrasant sur des rochers. Autour des truffes, des saveurs de forêt automnale les remplacent. Chaque thème est censé provoquer ce que Paul Perret appelle le goût psychologique. L'idée est de placer le plat dans son environnement naturel pour enlever toute perturbation susceptible d'en altérer les saveurs. L'addition revient, elle, au minimum à 4000 yuan, qui représente environ 510 euros par personne. Mais 5 ans après son ouverture, le restaurant fait toujours le plein et la place se réserve jusqu'à 3 mois à l'avance. Donc concrètement, ce concept n'est pas encore arrivé en France, il est présent pour l'instant uniquement à Shanghai. Mais si ça venait à exister, est-ce que vous seriez prête à payer une telle somme pour une expérience immersive de ce type ?
Moi, personnellement, je pense que la culture est différente déjà en France et en Chine, car en Chine, déjà, les habitants ils sont beaucoup plus habitués aux nouvelles technologies au quotidien. Et cette technologie, selon moi, sera mieux accepté en Chine. Je ne pense vraiment pas qu'en France, ce style de rest- que ce style de restaurant ait autant de succès que là-bas. Et puis, c'est quand même destiné à une classe sociale très spécifique quand même, parce qu'on parle comme environ d'un repas à 500 euros. Et on peut aussi prendre en compte le fait que pour manger correctement, les nutritionnistes préconisent de manger en pleine conscience, donc sans avoir de distraction autour de nous. Même si c'est exceptionnel, il faut quand même prendre ça en compte.
Personnellement, je pense que le prix élevé peut être justifié par le fait que dans ce cas, on ne parle pas d'un simple repas en restaurant, mais plutôt d'une expérience artistique. On peut comparer ces repas qui sont proposés par Paul Perret à des expositions artistiques au musée ou une projection au cinéma, mais ici, il y a encore plus des cinq sens qui sont pris en compte. On a donc une idée originale qui a été pensée puis mise en œuvre pour être admirée par un public. Donc ça arrive à tout le monde, à mon avis, de voir une œuvre d'art et de trouver le prix injustifié, mais il y aura toujours d'autres personnes pour l'admirer et pour trouver l'expérience et le ressenti incroyable. En plus, ici, à cause de la capacité d'accueil de la salle et de la production des repas, l'événement est réservé à un public plus restreint. Il faut donc un certain prix pour soutenir la prestation.
Je rejoins votre point de vue sur le fait que le prix est élevé, c'est vrai. Mais je pense aussi que le cerveau et la psychologie ont un grand impact sur le goût. Et donc, par exemple, même si on a tous le même palais, on a tous des goûts différents qui sont dus à des contextes, à des souvenirs... Donc je pense que l'odorat et l'aspect va beaucoup impacter notre envie de manger un plat et la manière dont on va le déguster. Je pense à l'expérience où on a plusieurs personnes qui vont manger la glace qui a le même goût mais une couleur différente. Et ils vont tous penser qu'elle a un goût différent simplement en se basant sur la couleur. Donc ça prouve que le cerveau a bien un effet important sur le goût, même si en l'occurrence les glaces ont absolument toutes le même goût de manière factuelle, juste un aspect différent. Donc je serais prête à payer pour avoir une expérience gustative comme ça, parce que je pense que l'environnement peut avoir un réel impact sur le goût.
Nous pouvons maintenant nous attaquer aux aliments et non à leur décor avec le concept des imprimantes 3D alimentaires. Ces imprimantes 3D sont capables de créer des plats à partir de différentes pâtes et matières. Avec l'évolution de la technologie, on peut maintenant créer des chocolats, des bonbons, voire un repas entier. Un des avantages clés est sans aucun doute la liberté de conception. Les imprimantes 3D sont capables de concevoir des formes très complexes qui sont quasi impossibles à obtenir avec des méthodes classiques. Cependant, on peut aujourd'hui faire nos courses en ligne et trouver une large variété de produits dans les magasins. On pourrait donc se demander pourquoi dépenser de l'énergie et du temps dans cette nouvelle technologie.
Il existe actuellement une forte pression exercée sur l'alimentaire avec de nouvelles tendances qui sont apparues ces dernières années. Beaucoup auraient tendance à rejeter les technologies quand il s'agit d'alimentation. Lynette Cooksma, PDG et cofondatrice de Natural Machines, qui est une des sociétés productrices d'imprimantes 3D alimentaires, explique dans une interview donnée à un journal qu'elle aussi était réfractaire au début quand on lui parlait d'imprimantes 3D alimentaires. Elle avait le sentiment de manger des aliments transformés. Mais en creusant un peu, elle s'est rendue compte que l'objectif était tout à fait différent. Si vous mangez quelque chose qui provient d'un supermarché ou d'une épicerie, cela revient au même. Les aliments sont aussi introduits dans une machine, placés dans un moule. Avec l'imprimante 3D, vous avez toutefois le choix quant aux aliments que vous utilisez. La cofondatrice de Natural Machines souligne également le caractère innovant de l'impression 3D alimentaire. De nouvelles saveurs et formes peuvent être créées qui peuvent avoir un impact sur la santé du consommateur final.
Et du côté de la santé, les imprimantes 3D alimentaires peuvent également être utiles. Aujourd'hui, les régimes alimentaires ont des conséquences importantes sur la santé des hommes. Parallèlement, les fast-foods continuent leur ascension et beaucoup d'enfants grandissent avec de mauvaises habitudes alimentaires. Les mentalités changent progressivement, mais on sait que changer des habitudes alimentaires prend du temps. Lynette Cooksma est convaincue qu'une imprimante 3D alimentaire peut accélérer ce changement. Elle dit « Les gens qui accorderont davantage attention à ce qu'ils mangent, en plus, ils pourront créer des formes plus appétissantes et parfois plus ludiques. » Par exemple, avec la Foodini, une des imprimantes 3D alimentaires, vous pouvez fabriquer des petits dinosaures à base d'épinards, une façon beaucoup plus attrayante pour les enfants de manger ces légumes qui n'ont pas forcément beaucoup de succès dans les familles.
Donc on sait bien que le terme d'imprimante alimentaire fait peur et pour certains rime avec quelque chose qui va être contraire à l'écologie. Mais ces imprimantes 3D alimentaires peuvent également avoir des effets extrêmement positifs sur l'environnement, malgré ce qu'on pourrait penser. En effet, une imprimante 3D est compatible avec davantage de matières premières. Par exemple, utiliser des insectes comme source de protéines serait beaucoup plus facile. Lynette Kouxma, dont nous avons parlé, s'est exprimée sur le sujet et estime « L'influence de l'esthétique sur le choix des aliments est connue et fondée. L'aspect de l'aliment influe sur l'acceptation et l'expérience gustative. En améliorant cette esthétique, nous pouvons utiliser des ressources qui n'ont pas encore été touchées. » Il reste néanmoins quelques limites à cette nouvelle méthode, même si l'extrusion des aliments est de plus en plus fluide. Il n'en demeure pas moins qu'il faut passer par une étape de cuisson après l'impression. La technologie n'est pas tout à fait au point pour apparaître dès demain dans toutes les cuisines, mais sur le principe, on s'est demandé est-ce que les Français seraient prêts à voir arriver une imprimante 3D alimentaire dans leur cuisine. Nous avons donc fait le tour des marchés de Paris, Lille ainsi que Compiègne pour demander aux Français leur avis sur les imprimantes 3D alimentaires. On écoute ça tout de suite.
Je pense pas que j'aimerais avoir une imprimante 3D alimentaire chez moi parce que j'adore cuisiner et je trouve ça un peu dommage de tout rentrer dans une machine, même pas avoir ce truc de cuisiner, de sentir, de goûter, etc. C'est vraiment tac, 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 on appuie sur des boutons et puis bam, on a un plat alors que, je sais pas, il n'y a pas ce truc derrière d'avoir cuisiné, d'être content de ce qu'on a fait et de savoir ce qu'il y a dans notre plat.
Si l'imprimante cuit les aliments de façon saine, en fait pour garder les vitamines, etc., en même temps qu'elle fait son œuvre, oui, j'accepterai.
La cuisine est un art. Est-ce qu'on demande à un peintre que son tableau soit peint par une imprimante 3D ? Est-ce qu'on demande à un sculpteur que sa sculpture soit faite par une imprimante 3D ? La cuisine est un art et il faut laisser cet art s'exprimer et l'imprimante 3D enlève toute cette créativité en fait. C'est le début de la fin. On aurait un produit standardisé, banalisé.
Alors ok, l'imprimante 3D alimentaire a l'air d'offrir pas mal de liberté et de créativité dans la cuisine, mais par contre le goût des aliments, le plaisir d'aller faire son marché, l'odeur quand les aliments cuisent, ça moi je serais pas prête à le perdre par contre. L'imprimante 3D, ce serait la fin des chefs cuisiniers, ce serait la fin de tous les cours de cuisine, de l'héritage qu'on a de sa mère, de sa grand-mère, de tout ce qu'on peut apprendre en expérimentant soi-même. Je doute quand même que ce soit révolutionnaire. Avec l'imprimante 3D alimentaire, en fait, il n'y a plus besoin de savoir-faire, il n'y a plus besoin d'être un as en pâtisserie, en cuisine, c'est à la portée de tout le monde. Donc c'est un petit peu le piège, et puis il y aura toujours un goût uniforme. Moi je crains que toutes les pizzas aient le même goût, que toutes les purées de pommes de terre aient le même goût.
Alors, est-ce que je suis prêt à acheter une imprimante 3D alimentaire ? La réponse est non, même si ça a l'air futuriste et c'est sûrement une innovation intéressante. Moi je suis pour préparer la cuisine soi-même. Je trouve qu'on rentre dans une époque où le prêt-à-manger est devenu légion et je trouve que c'est pas une bonne chose. Et je suis beaucoup plus partisan de préparer ses repas soi-même avec des aliments qu'on choisit, qu'on sélectionne, qu'on cuisine et pas de mettre tout dans quelque chose qui donnerait sous une forme quelque chose alimentaire. Et j'en veux pour preuve que de tous ces peuples qui mangent avec leurs doigts, qui donnent finalement une information préalable à leurs intestins, qui sont une autre partie du corps qui donne des informations neurologiques pour préparer la digestion. Donc non, je ne suis pas prêt à cette innovation. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on se redirige vers plus d'intelligence dans l'alimentation et notamment la préparation des repas de manière personnelle.
Donc on vous a donné là quelques extraits de personnes qu'on a interrogées dans les rues. On a aussi pas passé tous les enregistrements bien sûr. On peut voir que de manière générale la majorité des personnes sont pas vraiment prêtes à avoir cette imprimante dans leur cuisine. Soit parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, soit parce qu'ils ont du mal à céder cet art de la cuisine à un robot, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous seriez prête, vous, à l'avoir dans votre cuisine, cette imprimante ?
Alors moi, personnellement, je vois plus la dimension un peu pour la lutte contre le gaspillage, dans le sens où je ne la verrais pas forcément arriver dans ma cuisine, mais sur le principe, par exemple, si on prend l'exemple des supermarchés à aujourd'hui, on sait que sur les étalages, c'est souvent les plus beaux fruits et légumes qui sont montrés, parce que c'est ceux qui vont être le plus vendeurs et qui vont donner le plus envie tout simplement aux clients. Et c'est vrai que si on a une tomate qui arrive de chez l'agriculteur qui n'est pas parfaitement ronde ou un concombre qui n'est pas parfaitement droit, c'est vrai que souvent les supermarchés ont tendance à jeter ces aliments et que je pense que dans ce cas, les imprimantes 3D alimentaires peuvent avoir un réel rôle dans la lutte contre le gâchis, tout simplement parce que ces aliments qui du coup sur le principe ne seront pas vraiment vendeurs de par leur apparence sur les étalages des supermarchés pourront l'être une fois qu'ils auront été un petit peu transformés pour être réduits tout simplement dans ces cartouches que l'on insérera dans l'imprimante 3D alimentaire et que du coup ça pourrait faire un gros pas dans la lutte contre le gâchis.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi Luna, quand tu parles de gâchis alimentaire, ça pourrait être pas mal. Après avoir le prix aussi de l'imprimante, parce que bon, si c'est un prix trop élevé...
Pour l'instant, elle coûte assez cher, mais ouais, je pense c'est aussi parce qu'elles ne sont pas assez développées, tout simplement.
Développées, et puis comme on l'a entendu, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent garder les traditions familiales, à savoir cuisiner en famille et tout ça. Et c'est vrai que je partage aussi cet avis, mais si ça se développe, et peut-être que si c'est un peu plus démocratisé, oui, pourquoi pas.
Moi, je vois bien l'intérêt dans la production de masse de nourriture. Par exemple, s'il faut produire beaucoup de nourriture très rapidement, j'ai l'impression que ça pourrait être très utile. Personnellement, pour l'usage individuel, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Enfin, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, donc je me verrais pas avoir une imprimante 3D pour moi. Mais bon, je sais que ça dépend des gens. Mais en tout cas, je vois beaucoup l'intérêt pour tout ce qui est de produire beaucoup de nourriture en grande quantité. On parle depuis tout à l'heure d'une cuisine plutôt high-tech avec des robots et des imprimantes. Mais pour certains, la cuisine du futur se trouve dans les low-tech. Les low-tech sont des technologies qui sont simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables. Elles sont donc ancrées dans le principe de l'économie circulaire. On peut dire que le futur n'est pas toujours synonyme de high-tech. Quelques inventions ont été créées pour développer une cuisine futuriste comme les fours solaires. Il existe des boulangers qui cuisent maintenant leur pain avec des fours solaires. L'idée est de concentrer les rayons solaires dans le four avec des miroirs, ce qui permet de cuire du pain ou de faire de la torréfaction. Ça demande environ une heure de cuisson. On connaît un exemple particulier qui permet de produire 110 à 120 kg de pain par jour avec seulement 4 heures de soleil. On voit donc que c'est une méthode qui est très efficace, même en hiver. Donc, petite question aux invités. Pour vous, la définition de la cuisine du futur se trouve-t-elle dans les low-tech ou dans les high-tech ?
Alors, selon moi, je pense que la cuisine du futur se trouve justement dans les low-tech, comme tu l'as présenté. Car la technologie justement high-tech a trop d'impact sur la planète et aussi sur nos relations sociales. On a par exemple les data centers ou les objets connectés et les appareils électroniques qui ne sont pas du tout écologiques et qui consomment justement énormément d'énergie. Et puis concernant nos relations sociales, on peut le voir par exemple avec les restaurants où les serveurs sont des robots. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais... Il y a des restaurants où les serveurs, justement, sont des robots. C'est des restaurants très connectés où ça prive toute relation sociale, là où, justement, la cuisine, c'est censé rassembler les gens. Et je pense que les cuisines low-tech peuvent rassembler un maximum de gens. Voilà.
Personnellement, je pense que ça dépend surtout de la définition qu'on donne à la cuisine du futur. Pour certaines personnes, ça va être synonyme d'innovation. Donc là, dans ce cas-là, ça sera plus l'aspect high-tech. Et pour d'autres, ça va plus être synonyme, comme on l'a vu au début, de durabilité et d'écologie. Pour moi, personnellement, c'est vrai que la cuisine du futur va plus rimer avec l'innovation, le nouveau, peut-être différents modes de cuisson ou des fours qui vont accélérer les temps de cuisson pour certains aliments. Donc c'est pour ça que j'aurais plus tendance à dire que ça se trouve dans le high-tech. Pour ces raisons-là, pour la question de l'innovation et de la nouveauté, tout simplement.
À mon sens, la cuisine du futur se dirigerait plutôt vers les low-tech aussi. Aujourd'hui, on sait que les grosses problématiques liées à l'environnement sont beaucoup dues à la nourriture, avec l'industrialisation de la viande, les produits laitiers, etc. Il y a beaucoup de débats sur être flexitarien, végétarien, etc. Je pense que les low-tech devraient être plus utilisés dans le futur parce que justement les high-tech vont créer des besoins qui vont nous pousser à dépenser davantage d'énergie et donc pas aller dans le sens du futur, dans le sens où on va pas réussir à protéger l'environnement de cette manière-là en développant de nouvelles technologies encore et encore qui vont dépenser encore et encore plus d'énergie. Et donc pour moi, il faudrait réussir à utiliser l'intelligence humaine pour créer des innovations qui sont plus durables et respectueuses, plus que pour créer des nouveaux besoins et un confort encore plus élevé.
Ouais. Et puis donc tout à l'heure, Juliette, tu parlais des robots dans le cadre des restaurants. Et donc c'est vrai qu'il y a des restaurants qui sont en pleine immersion, où on voit tout simplement des robots qui vont remplacer les serveurs humains. Et donc, c'est les robots qui vont s'occuper du service, de la prise de commande. Donc, est-ce que sur ça, vous auriez un avis? Parce que cela se tourne plus vers le côté high-tech de la cuisine. Donc, est-ce que sur ça, votre avis différerait par rapport à la question précédente?
Mais moi, je pense que là, il y a... Je vais rester sur mes positions, hein, mais il y a un réel problème d'humanité dans ces restaurants-là. Il n'y a plus de contact humain, enfin... Tout ce qu'on cherche en allant au restaurant, donc le contact, passer un bon moment, famille et tout ça, et être servi par un robot qui peut même pas... Il peut interagir avec nous, bien sûr, mais il peut même pas répondre aux questions peut-être plus personnelles qu'on poserait à un serveur, ou même les interactions qu'on pourrait avoir avec un serveur. Donc ça pose vraiment un réel problème, je trouve. Et puis c'est pas du tout low-tech, alors je suis pas partisante.
Personnellement, je pense que cette innovation peut se révéler pratique dans des cadres où les clients souhaitent pouvoir être servis plus rapidement et plus machinalement, donc comme dans un fast-food. Dans ce type de restauration, le contact humain n'est clairement pas la priorité. Et parfois, l'erreur humaine peut même entraîner des retards et des frustrations. Et donc, dans ce cas-là, la présence de robots pourrait éviter ces soucis. Et le remplacement des humains par les robots peut s'avérer pratique dans ces situations.
Moi, je suis aussi d'avis qu'un robot dans un restaurant, c'est aberrant. Quand je vais au restaurant, j'ai envie de contact humain, j'ai envie de pouvoir parler au serveur, lui demander des conseils sur mon plat ou sur quel vin ira bien avec tel plat, par exemple. Et un robot qui sera juste programmé pour me répondre et qui ne va pas avoir un palais, un avis fondé, du coup, ça ne m'intéresse pas spécialement. Et je trouve que c'est aussi le charme du restaurant, d'avoir ces interactions sociales avec les serveurs. Mais...
Et toi, Luna, t'en penses quoi?
Ouais, moi, pareil, je suis un peu du même avis, de me dire c'est le côté humain aussi d'aller au restaurant, de l'expérience totale un peu. On se dit, voilà, je vais au restaurant, je vais certes bien manger, mais derrière, quand on a un bon serveur, on rigole avec lui, voilà, on peut se faire conseiller, comme disait Garance. Et puis, voilà, on crée un lien humain. Et je pense que du coup, c'est ce lien qui est complètement supprimé avec l'apparition des robots. Et moi, j'aurais vraiment peur d'une ambiance froide dans un restaurant, ouais, où on entend les mouches voler parce qu'il n'y a absolument aucun contact. Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas vraiment partisane de l'idée non plus d'avoir des serveurs qui sont des robots, finalement.
Et même le robot, il serait, je pense, programmé pour plaire aux clients. Et du coup, il y aurait un côté trop
pas naturel.
Où il est juste là pour te flatter alors qu'un serveur, il sera vraiment humain, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Alors, autre que les méthodes de cuisine et de présentation, des évolutions ont lieu au sein des aliments eux-mêmes. Afin de répondre aux problématiques écologiques et aux régimes alimentaires qui changent, de nouveaux types d'aliments sont développés. Nous pouvons remarquer une tendance globale. Ils cherchent souvent à remplacer des produits dérivés d'animaux.
Et oui, on entend souvent parler de cuisine du futur comme étant des recettes à base d'insectes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, Garance?
Oui, en effet, Luna, ça fait des années qu'on en parle. Avec la croissance démographique, il faut nourrir de plus en plus de bouches. Et avec l'impact environnemental désastreux de la production de viande, il faut en réduire drastiquement la consommation. Mais où trouver les protéines et les apports alimentaires qu'on a dans la viande? Dans les insectes, bien sûr. Ils sont aussi riches en protéines, mais un élevage d'insectes consomme beaucoup moins d'eau qu'un élevage de bœuf, par exemple. Donc ils sont la solution parfaite pour substituer à notre steak. La cuisine du futur, c'est donc aussi des nouveaux ingrédients qui sont intégrés dans nos assiettes. Et comme nous l'avons mentionné en parlant d'imprimantes 3D alimentaires, le but ne serait pas de manger une assiette pleine d'asticots gluants, mais plutôt de les cacher dans nos recettes pour bénéficier de leur apport nutritionnel, sans avoir le droit à leur aspect dégoûtant. Mais donc, comment faire ?
On a IKEA, par exemple, qui a mis au point de nouvelles recettes de burgers aux insectes, des hot dogs aux micro-algues de spiruline, des glaces à la salade ou encore des boulettes de viande aux larves. Est-ce que vous étiez au courant de ça ?
Absolument pas.
Moi non plus.
Ça a l'air délicieux.
Et on a aussi la start-up suisse, Essento, qui s'est intéressée au sujet et qui a commercialisé dans les supermarchés suisses des genres de falafels d'insectes. Donc c'est fabriqué avec de la poudre de verre de farine. Et ces boulettes gardent en fait les pois chiches, la coriandre, les oignons, des traditionnels falafels avec un petit supplément de protéines.
Alors personnellement, j'en avais jamais entendu parler, mais il m'est déjà arrivé de goûter, de manger un gâteau au chocolat dans lequel il y avait des asticots. Donc c'était vraiment, c'était pas une erreur, c'était vraiment la personne qui avait fait ce brownie au chocolat qui avait volontairement mis des asticots dedans. Et en fait, tout simplement, ça rajoute juste du croquant. Donc c'est, moi en l'occurrence, c'était vraiment des tout petits asticots. Donc je pense que ça dépend d'un insecte à l'autre. Mais moi, c'est vrai que ça avait surtout un goût de croquant. Pas de goût particulier, donc je me dis qu'en soi ça doit pas être si gênant que ça si le goût ne change pas et que c'est seulement tout simplement l'apport nutritionnel qu'on a en mangeant des asticots quoi.
Et tu savais que dedans il y avait des asticots avant de le manger ou pas ?
Oui oui, elle okay. me l'avait dit. Donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu réticente parce que ça surprend. C'est sûr. Mais une fois qu'on croque dedans, ça fait comme des pépites de chocolat tout simplement.
Sympa les pépites.
Moi, ça m'est déjà arrivé en voyage ou pour des défis au collège de manger des insectes aussi. J'ai goûté genre scorpions, larves, des criquets. C'est vrai que l'aspect est vraiment pas très... ça donne pas tant envie de le manger. Mais le goût, je suis d'accord avec toi, Luna, est pas vraiment prononcé. Moi, ça avait surtout le goût des épices qu'on avait mis dessus avant de le faire griller. Donc au final, ce qui m'a le plus dérangé, c'était plutôt la texture, parce que c'est assez sec et mietteux, où les larves, c'est un peu gluant, donc on ne peut pas oublier que c'est une larve. Mais je pense que si c'est un peu transformé dans un plat, genre intégré dans des falafels, qu'on ne voit pas du tout l'insecte, ouais. Et qu'on ne sent pas un goût particulier, parce que je n'avais pas le sentiment qu'il y avait un goût particulier dans l'insecte, je pense que ça ne me dérangerait pas spécialement d'en manger intégré comme ça dans des plats.
Oui, surtout si on garde l'aspect... bonne nutrition et bonne protéine pour nous, notre corps. Et...
Oui.
Oui.
Donc la cuisine du futur, c'est aussi moins de gâchis alimentaires. La cuisine du futur, ça pourrait être revenir à celle du passé. Depuis tout à l'heure, on parle de nouveaux types d'aliments, de nouvelles innovations, de cuisine high-tech. Mais il faut tout simplement revenir à des choses simples. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui me disait qu'elle voulait absolument rien gâcher quand j'étais petite. Quand on achetait le poulet au marché, elle utilisait même la tête du poulet pour la mettre dans sa soupe. Elle faisait des coussins avec les plumes. Enfin, elle ne jetait pas une miette de nourriture. Et je pense finalement qu'elle était bien en avance sur son temps. Parce qu'aujourd'hui, avec justement la croissance démographique, le plus en plus de bouches à nourrir, il faut optimiser les aliments, il faut réduire le gâchis alimentaire. Et donc, une cuisine du futur, ce serait réutiliser nos restes de nourriture, les épluchures, et savoir optimiser les déchets alimentaires pour moins en avoir. En France, par exemple, le gaspillage alimentaire, ça représente 100 euros par personne et par an. Donc c'est quand même une somme plutôt conséquente, ce serait bien de s'y pencher un peu.
En effet, je suis d'accord, il faut trouver d'autres manières donc, d'optimiser les ingrédients auxquels on ne penserait pas, et c'est ce que fait donc, le chef Thierry Marx. Donc, comme évoqué, le chef Thierry Marx est un expérimentateur de cuisine moléculaire. En 2012, il s'associe avec le physico-chimiste Raphaël Aumont pour créer le Centre français d'innovation culinaire et également une chaire universitaire dédiée à la cuisine du futur. Donc en associant cuisine et laboratoire, les deux prodiges vont réinventer la cuisine et les recettes. Dans un documentaire de France TV, les téléspectateurs ont même pu découvrir une technique de gélification naturelle.
Et c'est bien connu, pour l'instant, si on veut gélifier une substance de cuisine, on y ajoute bien sûr des feuilles de gélatine. Mais Monsieur Marx et Monsieur Aumont ont eux utilisé de la peau d'orange, initialement, qui est la partie jetée une fois la pulpe utilisée. Donc Thierry Marx explique... On a récupéré des déchets qui ne sont plus des déchets, qui sont des coproduits, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et ce duo a notamment conçu les repas d'exception que Thomas Pesquet a eu l'occasion de déguster dans la Station Spatiale Internationale lors de sa dernière mission. Donc cette technique de gélification a permis d'éviter les protéines animales dans les repas de l'astronaute.
Donc en fait, là, tout simplement, le cuisinier et l'expérimentateur se sont dit qu'il y a évidemment les arômes qui sont extrêmement intéressants, mais il y a surtout une pectine apparemment qui est présente dans les épluchures d'orange qui va devenir tout simplement un gélifiant naturel. Donc quand on regarde ce reportage, on voit qu'au début, ils se retrouvent voilà, avec un espèce de sirop qu'ils ont obtenu avec une huile, en mélangeant les épluchures dans une huile. Donc ils obtiennent un sirop un peu plus consistant que, par exemple, de l'eau. Et en fait, à partir du moment où ils vont rajouter quelques gouttes d'eau dans ce sirop, ils vont mélanger un petit peu, et c'est là qu'on obtient une gelée instantanée. Et comme le dit le chef, on a une gelée qui est un petit peu aromatisée à l'orange. Donc c'est vrai que ça, c'est une manière super naturelle de gélifier, et c'est vrai que voilà... La gélatine, c'est utilisé dans énormément de plats.
Je trouve ça assez intéressant comme développement, mais ça me paraît un peu compliqué à mettre en pratique, dans le sens où, ok, c'est des chefs, ils prennent le temps de cuisiner. Ça me paraît un peu compliqué pratiquement de récolter, par exemple, les peaux d'orange chez les gens quand ils les jettent, de les récupérer avant qu'elles soient devenues plus consommables pour en faire de la peau d'orange, ou alors de faire l'orange chez soi. Ça me paraît quand même beaucoup de temps investi, même si j'adore l'idée, j'ai du mal à voir comment... Je pense que c'est pas très facile à mettre en pratique chez soi individuellement pour justement réutiliser ces épluchures. Je pense qu'il y a d'autres manières peut-être plus simples de le faire.
Après, pour récolter les épluchures, je me suis dit, de la même manière qu'aujourd'hui on demande à la population de trier son verre, ou même de trier les emballages qui vont être recyclables. On a des poubelles spécialisées, pareil pour le verre. Je me dis, on pourrait avoir voilà, un système où là, en l'occurrence, ce serait des épluchures d'orange, mais on peut faire la même chose sur d'autres fruits. On demande du coup à la population de trier leurs épluchures, et tout simplement, ces épluchures seraient potentiellement récupérées.
Comme un compost commun, du coup.
Voilà, c'est ça, comme un compost commun. Et ensuite, il y aurait des grosses entreprises elles, du coup, s'occuperaient d'industrialiser ce processus qu'ont fait ces deux hommes.
Je pense que c'est compliqué niveau hygiène de récolter les épluchures chez n'importe qui, alors qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce que font les gens avec les épluchures avant de les donner. Qu'il faudrait être très réactif et rapide dans la récolte et la transformation en... autre chose, parce que tout ce qui est organique, ça pourrit assez rapidement.
Donc c'est vrai, et les fruits qui sont pas... Enfin, si les fruits sont traités, pesticides et tout ça, ça peut aussi peut-être créer des problèmes de santé après.
Ouais. Mais c'est vrai que déjà, rien que de développer peut-être un compost commun, ça peut être intéressant d'en imposer un dans chaque ville.
Oui, à plus petite échelle, pour être sûr, comme tu disais, Juliette, de la provenance des épluchures, pour être sûr que ce soit des produits qui soient bien traités initialement. C'est vrai qu'on pourrait commencer par des plus petites échelles, puis après l'élargir.
Mais après, en parlant de peau d'orange, moi j'ai une amie qui récolte ses peaux d'orange, et moins compliqué que de faire de la gélatine avec, simplement elle les fait mariner un peu ou bouillir dans... J'ai pas la recette exacte, mais elle fabrique des orangeades elle-même avec sa peau d'orange, et c'est super bon, juste elle fait bouillir pendant super longtemps, et après ça devient super sucré et vraiment bon, et il y a du coup tous les arômes dans la peau d'orange qui sont gardés, ça fait un petit apéro sympa, et ça évite de jeter les peaux. Je pense que c'est plus simple à faire que de la gelée, par exemple.
C'est ça, c'est le premier pas qui serait plus accessible.
Après, sinon, y a ce genre de méthode peut être appliqué aussi à d'autres ingrédients individuellement chez soi, avec par exemple l'idée des oignons. Il y a beaucoup de personnes qui récupèrent les peaux d'oignons et ensuite qui les font griller et puis les réduisent en poudre, et ça peut faire un assaisonnement. Donc ces méthodes très intéressantes pour appliquer et juste récupérer le plus possible la nourriture.
C'est vrai.
Et ça a le goût d'oignon, la poudre d'oignon.
Ça a le goût d'oignon, c'est comme un assaisonnement.
Dans les vinaigrettes, etc.
Ça fait des nouvelles idées de recettes, c'est pas ça.
Donc quand on parle de cuisine du futur, on parle souvent aussi de cuisine végane, végétarienne ou au moins flexitarienne. Donc qui dit cuisine du futur dit forcément substitution aux aliments qui vont être non véganes initialement. Donc on a déjà parlé des insectes juste avant, qui pourraient remplacer la viande. Mais qu'en est-il des œufs ou même du fromage ? Donc il existe déjà des entreprises qui cherchent à développer des aliments qui vont imiter ceux qui risquent de manquer demain. Le but est d'obtenir le même aspect physique, le même goût, voire même les mêmes propriétés chimiques, pour que le consommateur puisse manger ses imitations sans trop forcément sortir de sa zone de confort, ou du moins sans ressentir le manque des produits d'origine animale.
Oui, et nous pouvons prendre par exemple l'exemple du pas pondu. Est-ce que vous connaissez le pas pondu, les filles ?
Non.
Non, c'est quoi ?
Non. Alors en fait, c'est un œuf végétal qui, comme son nom l'indique, n'a pas été pondu. Il a tout l'aspect d'un œuf, à ceci près qu'il n'est pas sorti réellement du même endroit en fait. Son goût, sa texture, son jaune vous tromperaient. Il a été développé par deux ingénieurs UTCN françaises. Le pas pondu peut être battu en omelette, cuisiné en plat, utilisé pour les pâtes à gâteau ou même pour la mayonnaise.
En partant dans cette lancée d'innovations culinaires étonnantes, nous pouvons aussi prendre l'exemple du fromage. Le fromage, c'est un fromage végétal. Donc ce fromage végétalien ne contient pas de lait et propose une bonne alternative au fromage tant adoré des Français. Donc il est fabriqué à partir de lait végétal et il est déjà assez commercialisé. Mais il ne sait pas encore imiter parfaitement le goût et la texture du fromage. Et ça reste une bonne alternative pour les végétariens, les véganes pardon, surtout, ou ceux qui sont intolérants au lactose, qui aiment le fromage, le goût du fromage, mais ne peuvent pas en manger. Il existe aussi des alternatives de viande végane, comme du jambon, du saucisson, de la saucisse, qui sont fabriquées à base de plantes, comme du soja, du blé, des légumes ou encore des champignons. Et la viande végétale imite la texture, le goût et l'aspect de la viande et propose donc une alternative plus durable, éthique et saine. La viande végane est déjà commercialisée aussi et a su séduire une partie de la population, même si beaucoup restent attachés à la vraie viande, parce que la viande végane imite encore pas parfaitement la viande animale. Quoi.
Oui, et même les fromages aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais les fromages véganes, c'est quand même un goût très très différent du fromage qu'on a laitier en fait.
Alors moi le fromage j'ai pas encore goûté, mais c'est vrai que la viande dite végane j'ai déjà goûté, et il se trouve que c'était tout simplement des nuggets, mais du coup pas à base de protéines animales, et honnêtement je n'ai absolument pas senti la différence.
Ah ouais.
Si on me l'avait pas dit je l'aurais pas su, et c'était vraiment impressionnant, j'étais choquée. Et parce que vraiment, j'ai pas senti la différence, que ce soit au niveau de la texture ou au niveau du goût, c'était absolument la même chose.
Waouh, impressionnant. J'ai jamais goûté la viande, mais pourquoi pas tester du coup ?
J'ai déjà goûté aussi de la viande végane dans un restaurant, et c'était au niveau de l'imitation aussi, c'était assez proche, mais je sentais plutôt la différence au niveau de la digestion. Enfin, je sais que je me sens beaucoup plus rapidement rassasiée quand je mange de la viande. Et j'ai tendance à, quand je sors d'un resto, vu qu'on mange un peu beaucoup, avoir mal au ventre, etc. Et là, je me sentais beaucoup plus légère. Ou même les gâteaux véganes, on sent, pas forcément qu'il n'y a pas de beurre, par exemple, mais on sent juste que l'aspect est moins dense et plus léger. Du coup, je trouve que c'est un côté aussi quand même agréable à manger. Ouais. Moins bourratif, quoi. Mais bon. Est-ce que vous mangez un peu flexitarien, vegan ? Est-ce que vous avez des régimes alimentaires particuliers ?
Je suis ni végétarienne ni végane, mais il m'arrive de manger des nuggets blé et soja, parce que je trouve ça super bon en fait. Donc souvent je les trouve meilleurs que les nuggets de poulet, et donc j'en achète assez souvent en vrai, comme ça je fais des recettes avec, et simplement pour le goût, voilà.
T'as commencé à en manger depuis que tu vis seule, ou est-ce que c'est éducation de tes parents par exemple qui t'a amené à manger ça ?
J'ai découvert ça par une amie, du coup okay. Voilà.
Moi, par exemple, j'aimerais bien devenir végétarienne. Là, je suis pesco-végétarienne, donc je mange encore du poisson, mais plus de viande. Pourquoi ? Pour des raisons environnementales, et puis bien-être animal et tout ça. Et aussi, c'est beaucoup moins cher. Enfin, j'ai trouvé, en tant qu'étudiante, c'est beaucoup moins cher de ne plus manger de viande, en fait.
Ouais.
Et voilà.
Surtout que la viande pas chère est en général de qualité assez basse.
Ouais, inférieure, c'est donc c'est vrai qu'on accumule les points négatifs. Donc oui, je suis du même avis que toi, Juliette, en tant qu'étudiant. C'est souvent plus simple et plus arrangeant pour le compte en banque de manger un petit peu moins de viande et de protéines animales de manière générale. Donc, Donc là, on commence à s'approcher de la fin de cette émission et on a trouvé extrêmement intéressant de diffuser une interview que nous avons réalisée avec Madame Claire Rossi, qui est présidente de l'UTC et en même temps chercheuse dans des domaines divers et variés, mais principalement en sciences des aliments, en biochimie alimentaire et nutritionnelle, et ainsi que dans la rhéologie des aliments. Donc pour rappel, la rhéologie, c'est ce qui concerne la résistance des matériaux ou de l'élément en question, donc ici les aliments. Donc on a trouvé ça extrêmement intéressant de l'interviewer en posant plusieurs questions à une personne spécialisée qui va exactement savoir ce dont elle parle. Donc ça va être un gros plus pour nous, pour notre culture générale, mais aussi de donner des ouvertures pour la fin de cette émission. Donc avant de transmettre cette émission, on tenait à remercier encore chaleureusement Claire aussi pour le temps qu'elle nous a accordé et pour d'avoir garni ces réponses d'autant de richesses et d'informations.
Et du coup, selon vous, quelle serait du coup la cuisine du futur ?
Bah, plus je vois les évolutions, hein, on a eu plein de phases. On a eu la cuisine moléculaire, on a eu des choses hyper élaborées avec beaucoup de texturants, de gélifiants, etc. Là, la grosse tendance actuelle, c'est de chercher la naturalité au maximum en gardant du plaisir, hein, à déguster. Donc, beaucoup sur le travail sur les fibres végétales, de coproduits, de déchets, de carottes, etc., etc., pour donner retenir l'eau pour que ce soit moelleux, par exemple, etc. Donc, travailler beaucoup sur la fonctionnalité de produits issus des végétaux. Et donc j'ai l'impression qu'on arrive, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est parti à un moment où on ajoutait beaucoup d'additifs, beaucoup de choses pour avoir quelque chose de très complexe. Maintenant on est en train de revenir en arrière, ce qui est très difficile techniquement, hein, parce que quand on a eu toutes ces aides techniques et de revenir à la même chose mais sans, c'est pas facile. Et donc quelque chose de plus issu du naturel, qui changera pas beaucoup l'aspect du produit parce qu'on le sent, hein, les consommateurs resteraient très attachés et habitués à certains types de produits. Et je pense que la cuisine future ira sur des nouvelles sources de protéines qui sont encore compliquées à l'heure actuelle, comme les insectes. Nous on a travaillé dessus, c'est pas encore autorisé dans l'alimentation humaine, mais les farines d'insectes peuvent tout à fait s'insérer correctement et avec un goût tout à fait neutre dans les alimentations, avec un port de protéines très intéressant et en termes de aussi impact carbone très intéressant. Donc oui, je pense qu'il y aura une nouvelle vague d'évolution de ce type de choses dans les années qui arrivent.
Donc du coup ce serait dans le sens où on essaye de retrouver les mêmes goûts mais en partant sur des bases différentes.
C'est ça.
Donc pour réduire aussi la consommation de viande du coup.
Ouais, avoir un apport de protéines de qualité et complète, souvent c'est ça le problème avec les légumes. Les protéines de légumes et multiplier en fait les types de protéines. On a essayé avec les algues, mais souvent c'est compliqué d'un point de vue goût et couleur. Les insectes, la farine d'insectes n'est pas autorisée pour l'homme, mais c'est quelque chose, à mon avis, une étape d'étude à franchir. Mais d'un point de vue qualité nutritionnelle, reste très performant. Bon, faut que ça soit, il y a une acceptabilité aussi du consommateur, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est des sources à explorer en tout cas. Donc un retour vers la naturalité, ça c'est une évidence.
Ok.
Donc d'après vous, est-ce que ce secteur d'activité est-il assez développé ou mériterait-il plus de lumière et de popularité ?
Alors, c'est vrai que l'agroalimentaire, c'est à la fois hyper cool parce que c'est quelque chose d'hyper démocratisé. Hein. Dire tout ce qui est agroalimentaire, c'est... Vous l'avez dans les rayons du supermarché, c'est directement en contact avec le public. Et ça a les avantages ça a les inconvénients de son avantage. C'est-à-dire que c'est tellement ancré dans la vie quotidienne des gens qu'on oublie le côté scientifique. Par exemple, moi, ça fait quelques années, plusieurs années que je travaille en agroalimentaire sur le côté science des aliments. Et pour la petite blague, beaucoup de collègues me disent « mais tu fais de la cuisine ». Mais non, je fais de la biochimie, je fais de la chimie alimentaire, mais c'est tout aussi complexe parce qu'il y a l'activité des molécules, etc. Et donc en fait, on oublie le côté technique, scientifique complexe. Parce que c'est un objet du quotidien, parce que ça fait partie de notre vie et que... sans comparaison, c'est pas forcément, mais quand on travaille sur un médicament qui finalement, d'un point de vue biochimique est assez proche hein, en termes de connaissances scientifiques. Là, ça prend tout de suite quelque chose d'importance parce que c'est a priori beaucoup plus noble. Ce qui est vrai, puisque ça soigne les gens. Mais il faut se rendre compte aussi qu'une bonne alimentation, sur une durée de vie longue, ça prévient aussi de beaucoup de maladies. Et donc c'est aussi important, c'est aussi noble. Et je pense que le milieu de l'agroalimentaire, parfois, pêche un peu de reconnaissance du côté important, à la fois scientifique et à la fois impact sur finalement toute la population, en fait.
Moi, j'aurais une question qui n'est pas dans nos notes, mais qui vient comme ça. Du coup, on parle beaucoup de l'industriel, de la nourriture industrielle. Est-ce que vous pensez que c'est... on voit souvent ça comme quelque chose de négatif. Est-ce que vous pensez que c'est vu à tort comme négatif quand on parle de tous les additifs, tout ça, en parlant de cette nourriture-là, ou c'est quelque chose qui devrait être plus accepté pour vous ?
En fait, c'est là où c'est pas facile et c'est là où il faut un accompagnement pour à la fois connaître les ingrédients, à la fois lire les étiquettes. Parce que pour moi, il y a industriel et industriel. On va prendre un objet simple, le pain de mie. Le pain de mie, c'est terrible. Un pain de mie industriel, ça peut, en fonction des pays, en France encore, on est assez vertueux, mais prenez du pain de mie industriel aux États-Unis, par exemple. Pour que ce soit moelleux, que ça conserve longtemps, il va y avoir du sirop de glucose fructose dedans. C'est pas cher. Ça fait un pain super moelleux, c'est super bon, mais d'un point de vue indice glycémique, voire impact sur le foie, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obésité aussi, parce qu'il y a les matières grasses, mais il y a un indice glycémique qui est aussi un facteur de surpoids. Vous prenez d'autres marques de fabricants de pain de mie en France. J'ai des étudiantes, des diplômées qui travaillent dedans, donc qui vont travailler sur des farines issues de la France, qui vont travailler sur des pains complets, qui vont justement pas mettre ces sirops de fructose. Donc vous prenez le même objet, mais si vous savez lire l'étiquette, vous savez que celui-là, il va être beaucoup moins mauvais pour la santé parce qu'il a été travaillé industriellement, mais en réfléchissant à tous ces aspects-là. Donc c'est ça qui est difficile, et c'est pour ça que des fois je milite sur un peu de formation de sensibilisation pour que les gens aient ce recul de qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je lis une étiquette. L'ultra transformé avec des produits à indice glycémique élevé, j'en parle souvent, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Pour la conservation, pour le moelleux, c'est pas forcément quelque chose à recommander de manière quotidienne, il faut savoir. Et en face, la même typologie de produits peut être beaucoup plus vertueuse. Et pourtant, c'est toujours l'industrie. Donc, ça dépend aussi des valeurs des consommateurs et des fabricants qui... parce qu'il y a une histoire de coûts associés, mais pas que. Enfin, voilà. Donc, j'ai juste envie de dire qu'on ne peut pas mettre tout... Voilà, il ne faut pas mettre l'industrie dans le même panier. Et c'est... Voilà. Il y a vraiment des approches qualitatives différentes.
Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des imprimantes 3D ? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être un outil majeur dans notre façon de cuisiner dans 15 ou 20 ans, par exemple ?
Alors, on a effectivement fait des projets en imprimante 3D. On en a des 3D alimentaires à l'UTC. Oui. On avait joué avec ça pour faire des cookies en 3D. Avec des inserts, c'était rigolo. Puis on a eu un partenariat, je ne sais pas si je peux citer le nom, mais avec la pâtisserie numérique, qui est devenue quelque chose de super grand et connu. Alors, évidemment, on ne va pas nourrir toute la population avec ça, mais il y a des trucs assez marrants en termes de design, parce que Barilla, par exemple, avait aussi lancé des pâtes en 3D avec des formes très très spéciales, et d'un point de vue industriel. La pâtisserie numérique, eux, ils travaillent sur des choses impossibles à faire par l'homme en termes de décoration de gâteaux, des vitraux reconstitués, c'est magnifique, mais là c'est très technique, c'est limite artistique dans l'alimentaire. Donc ça, c'est des choses de niche un petit peu. Mais par contre, là où il y a un véritable intérêt, c'est tout ce qui est recherche en 3D alimentaire pour reconstituer des aliments qui ressemblent, je veux dire, une pizza par exemple. Mais avec des produits qui sont assez mous, donc pas une vraie pizza, mais qui ressemblent à une pizza, pour pouvoir être mastiqués facilement Et là, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont des problèmes de mastication, donc certaines personnes âgées ou des personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, etc., etc., et qui du coup ont des problèmes de déglutition et de mastication. Et donc là, ça prend quelque chose d'intéressant parce que c'est une alimentation sympa, on trouve des croissants en 3D, et là, ça trouve aussi un public, quoi.
Oui, c'est vrai, j'avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que... Ça peut être intéressant.
Donc ça permet de retravailler le design d'un aliment, mais avec différentes matrices et en ayant le look adapté à la fin.
Ouais, complètement. Et nous, on avait parlé aussi par rapport aux enfants. Le fait qu'ils mangent pas... Enfin, souvent, les enfants, ils sont un peu réticents, par exemple, aux légumes. Et le fait, justement, de donner une forme attrayante aux aliments qu'ils peuvent manger, ça pourrait peut-être aussi...
Ouais, les attirer
après,
plus.
Ouais, les attirer, ouais. Et puis aussi, peut-être, être une aménie de meilleure santé après... À la suite. Okay, bah merci beaucoup en tout cas.
Bah avec plaisir.
Donc on remercie encore une fois très chaleureusement Madame Claire Rossi pour cette interview extrêmement intéressante. Alors moi c'est vrai qu'un des éléments qui m'a le plus marqué dans ce qu'on vient d'écouter, c'est voilà, toutes ces informations sur la manière de bien se nourrir et un peu cette idée de la cuisine du futur pour revenir, enfin en revenant un peu dans le passé. Ce qui m'a choquée, c'est que bah, je trouve qu'en tant qu'étudiant, on n'est pas vraiment renseigné sur ce sujet. Moi, personnellement, je n'ai jamais été sensibilisée à ça. Donc, c'est vrai que là, dans le cadre de cette émission, on s'est renseigné, on a fait des recherches et on en apprend énormément, sans forcément rentrer dans le détail d'études ou de recherches, etc. Mais donc, c'est vrai que je trouve que c'est un peu frustrant de se dire qu'il y a autant de choses à savoir pour notre culture générale personnelle et aussi pour changer un petit peu nos habitudes de vie, notre manière de cuisiner, qui peut avoir un impact sur notre santé mentale, notre santé physique. Et donc, je trouve ça dommage qu'il y ait, par exemple, donc des cours comme ça qui soient proposés à des filières comme la filière du génie biologique, donc qui va vraiment, à l'UTC, se concentrer sur la biologie, peut-être l'agroalimentaire, comme l'a expliqué Madame Claire Rossi là. Et donc, je trouve ça dommage de seulement privilégier une branche telle que le génie biologique, alors que, sur le principe, si on le traite un petit peu plus en superficie, on a quand même moyen d'en tirer énormément d'informations. Pour tout simplement les autres étudiants qui sont dans d'autres branches de l'UTC, par exemple.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Luna. C'est vrai que la manière de s'alimenter paraît vraiment importante et on y est très peu sensibilisé. Finalement, c'est plus une histoire d'éducation, la façon dont on s'alimente. Ouais. Et je pense que ça peut être très pertinent de mettre des cours dans toutes les branches, au moins de sensibilisation à la nutrition. On parle beaucoup du fait que l'estomac, c'est le deuxième cerveau et ça a été montré par pas mal d'expériences sociales, scientifiques, que la manière dont on s'alimente va énormément influer nos choix, notre manière de réfléchir. Donc je pense que dans un contexte, dans une université où on étudie, où on a beaucoup appel à notre intellect, ça peut être vraiment pertinent de faire des cours de sensibilisation sur comment correctement s'alimenter, comment... aussi au niveau des problématiques écologiques, comment s'alimenter de manière plus durable, de manière plus éthique, sachant qu'aujourd'hui, bah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi ceux qui vont éduquer les jeunes de demain, donc c'est ceux qui devraient pouvoir transporter ces valeurs-là. Donc je pense que ça peut être très intéressant ouais, de mettre des cours comme ça, un peu pour tout le monde, histoire que tout le monde soit sensibilisé, ouais.
Oui, clairement. Rien que, par exemple, on peut reprendre l'exemple des pots d'orange. Enfin, savoir réutiliser aussi, faire beaucoup moins de déchets aussi serait un impact environnemental. On pourrait aussi se dire, certaines branches à utiliser qui sont moins engagées écologiquement que d'autres. Et on pourrait se dire, comme ça, tout le monde fait un peu des efforts écologiques, justement, sur le tri des déchets, réutiliser les déchets, enfin, avoir des circuits fermés. Enfin, voilà. Et je trouve aussi très intéressant et très pertinent de mettre ça en place à l'UTC. Ce serait une très bonne idée.
Je suis d'accord. Moi aussi, ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir en apprendre plus là-dessus pour savoir comment mieux m'alimenter et comment mieux gérer aussi les ingrédients que j'achète. Et puis, et pour moins de gaspillage aussi, parce que des fois, c'est un peu dommage. Je gère mal la nourriture dans mon frigo et du coup, je finis par devoir jeter des choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, je trouve que ça serait intéressant de savoir comment récupérer tout ce qui est les déchets pour pouvoir prévoir mieux et mieux anticiper et dans une démarche plus durable et aussi pas simplement pour mieux s'alimenter.
Oui, donc en fait, tout ça, j'y pense parce qu'on a une association, on a plusieurs associations à l'UTC qui sont un peu engagées dans ça, dans le développement durable. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Nutrition, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Oui, je connais.
Qui propose, donc, il me semble, des ventes d'aliments, que ce soit des fruits et légumes, au même titre que Epi. Oui. Mais ensuite, Nutrition va parfois aussi proposer des recettes à faire pour des étudiants, donc que ce soit des recettes petit budget, etc. Donc je pense qu'un peu tout ce qu'on a dit là peut être un peu dédié à Nutrition, mm-hmm. pour, à cette association, pour essayer de développer un petit peu plus leur champ d'activité pour faire aussi une partie de sensibilisation. Donc certes, une partie information ou donner des idées aux étudiants, des idées de recettes, de courses à petit prix, etc. Mais aussi tout simplement de la sensibilisation en disant, voilà, bah, là, c'est la saison de tel et tel aliment. Voilà tel et tel aliment que vous pouvez avoir à petit budget. Donc voilà, peut-être essayer d'élargir ça aux assos au sein de l'UTC.
Oui, carrément. C'est une bonne idée, ça.
C'est intéressant, oui.
Les exemples que nous avons évoqués nous montrent donc que la cuisine du futur peut prendre différentes formes et différentes directions. La problématique de l'écologie est très présente et donc on peut retenir qu'il est important de prendre du recul sur les innovations technologiques qui sont liées à notre alimentation. Ces innovations sont-elles vraiment nécessaires et ont-elles des effets positifs sur notre santé et sur l'environnement ?
Donc je pense quand on parle d'un sujet en disant voilà c'est la cuisine du futur, souvent les personnes vont automatiquement en parlant de futur associer plein de nouvelles technologies, des innovations, des gadgets, tout simplement des éléments qui ne vont pas forcément répondre de l'ordre du besoin, qui seront plus voilà, des choses en plus qu'on aimerait bien pour améliorer notre confort. Mais je pense qu'il est important, et surtout nous en tant qu'étudiants de la nouvelle génération, c'est de mettre un point d'honneur sur, certes, c'est des éléments qui vont être développés dans le futur, mais vraiment d'y associer la dimension voilà, écologique et de dire que bah, le futur ne rime pas forcément avec trop de technologies, trop d'innovations, mais que ça peut rester, peut-être faire un retour en arrière, comme on en a parlé durant cette émission.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, avec tout ce qu'on a travaillé autour de ce sujet, je retiens vraiment qu'il faut prendre du recul sur les innovations et voir si elles sont vraiment nécessaires, si c'est vraiment un besoin ou si c'est plus un caprice. Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Est-ce qu'elles sont vraiment éthiques? Parce que avec nos problématiques actuelles, c'est vraiment important, quand on a des innovations technologiques, de se poser la question, est-ce que oui ou non, elles sont respectueuses de l'environnement? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est utile? Donc ouais, on peut dire que ça nous aura appris quand même beaucoup de choses, cette émission radio. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a intéressé, que vous avez apprécié notre travail. Et à bientôt pour d'autres émissions
des Échos de l'innovation. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci.